Opération délicate que connaît bien Andy Mogensen, ami de Thomas Pesquet et astronaute de l'Agence spatiale européenne lui-même.
L'amarrage est complexe, mais ce n'est pas du tout aussi dangereux que le décollage ou l'atterrissage. La vitesse relative entre la station et la capsule Dragon est très faible. On s'approche tout doucement, mais ça reste délicat car on est dans l'espace. Il faut tout aligner à la perfection. Donc, à part cette difficulté, il n'y a pas grand risque. Bien sûr, dans le pire des cas, en théorie, vous pourriez percuter la station ou l'endommager. Mais ça n'arrive pas. Tout fonctionne à la perfection.
Ce n'est qu'après avoir vérifié que l'amarrage est réussi que la connexion entre la capsule et la station est bien étanche.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début des 20e siècle.
Poétesse et universitaire,
dont nous amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez. Bonjour, chers auditeurs des Impromptus. Nous vous proposons aujourd'hui une incursion dans la littérature suédoise à succès. Katarina Mazzetti est journaliste à la radio suédoise. Auteure de livres pour la jeunesse et de romans pour adultes, elle a rencontré un succès phénoménal avec Le mec de la tombe d'à côté, traduit en de nombreuses langues et adapté au cinéma et au théâtre. C'est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. Peut-on lire sur la quatrième de couverture ? En effet, l'une vit en ville dans un appartement décoré de couleurs gaies, travaille à la bibliothèque, sort avec des amis qui sont plutôt du genre branché. Elle est vive et légère, alors que lui est, ou paraît, plutôt lourdeau. Il se surnomme lui-même le blaireau national. Et il vit à la campagne, dans une ferme dont l'exploitation lui prend tout son temps et dont l'intérieur n'a pas changé depuis que ses parents l'ont emménagé à la mode de l'époque. Mais c'est aussi une réflexion sur la difficulté de choisir et de s'engager. Les deux protagonistes sont tous deux placés tout à coup dans la situation de devoir faire des choix auxquels ils n'avaient encore jamais réfléchi. En ce sens, c'est un roman d'ado. Les deux premiers chapitres, tous les chapitres sont très courts, 2 à 3 pages, ce qui ajoute à la facilité de la lecture et donne un rythme très enlevé, nous présentent les personnages.
Méfiez-vous de moi. Seule et déçue, je suis une femme dont la vie sentimentale n'est pas très orthodoxe, de toute évidence. Qui sait ce qui pourrait me passer par la tête à la prochaine lune ? Vous avez quand même lu Stephen King ? Juste là, je suis devant la tombe de mon mari, assise sur un banc de cimetière vert-bouteille, lustré par des générations de fesses, en train de me monter la tête contre sa dalle funéraire. C'est une petite pierre brune et sobre, gravée seulement de son nom, Orjan Valin, en caractère austère, simple, presque à outrance, tout à son image. Et il l'a effectivement choisi lui-même. Il avait laissé des indications dans son contrat obsèque, souscrit chez Phonus. Il y a de quoi s'énerver. Je veux dire, il n'était même pas malade. Je sais exactement ce qu'il veut dire avec sa pierre. La mort est un élément parfaitement naturel du processus vital. Il était biologiste. Je te remercie, Orjan. Je viens plusieurs fois par semaine pendant la pause de midi et toujours au moins une fois le week-end. S'il se met à pleuvoir, je sors d'une toute petite pochette un imperméable en plastique. Je l'ai trouvé dans la commode de maman. Il est parfaitement hideux. Nous sommes nombreux à avoir ce genre d'imperméable ici au cimetière. Je passe au moins une heure ici à chaque fois avant de m'en aller. Dans l'espoir, sans doute, de susciter un chagrin de circonstance à force d'acharnement. On pourrait dire que je me sentirais beaucoup mieux si j'arrivais à me sentir moins bien. Si j'étais capable de tordre les mouchoirs à la pelle, ici sur mon banc, sans poser tout le temps ce regard en coin sur moi-même pour vérifier si mes larmes sont vraies. La vérité, et elle est pénible, c'est que la moitié du temps, je suis furieuse contre lui. Foutu lâcheur, tu aurais quand même pu faire plus attention avec ton vélo. Et le reste du temps, je ressens probablement la même chose qu'un enfant quand son vieux canari malade a fini par rendre l'âme. Oui, je l'avoue. Ce qui me manque, c'est sa compagnie indéfectible et la routine quotidienne. Plus de froissement de journal à côté de moi dans le canapé, ça ne sent plus jamais le café quand je rentre, l'étagère à chaussures est comme un arbre en hiver, dépouillé de tous les souliers et bottes d'Orjane. Si je ne trouve pas Dieu Soleil en deux lettres, il me faut deviner ou passer à la définition suivante. L'autre moitié du lit double, jamais défaite. Personne pour se demander pourquoi je ne rentre pas à la maison si je venais à me faire écraser par une voiture. Et personne pour tirer la chasse d'eau à part moi. J'en suis donc là à regretter le bruit de la chasse d'eau assise sur un banc de cimetière. Ça te va comme bizarrerie, Stéphane ? C'est l'atmosphère des cimetières qui me fait tenir ce langage crispé d'humoriste de bas étage. Ça tient de l'autocensure, évidemment, et de la conjuration. Mais qu'on me laisse au moins m'offrir cela. Ces petits rituels sont à peu près tout ce qui me reste pour passer le temps. Avec Orjane, c'était clair. Je savais qui j'étais. Nous nous définissions. C'est bien à ça que servent les relations de couple, non ? Alors que maintenant, qui suis-je ? Une femme totalement livrée à ceux qui par hasard la voient. Pour les uns, je suis une électrice. Pour les autres, piétonne, salariée, consommatrice de culture, capital humain ou propriétaire d'appartement. Ou alors, seulement une synthèse de cheveux au point de fourchu, de tampons périodiques qui fuient et de peau sèche. Mais je peux évidemment continuer à utiliser Orjane pour m'identifier. Il peut bien me rendre ce service posthume. Sans lui, on aurait pu me qualifier de « nana solo 30+ ». J'ai vu cette formule dans un magazine hier, j'en ai eu le poil hérissé. Alors qu'à présent, je suis une veuve encore jeune, sans enfant. Quelle tragédie et quelle injustice. Oui, vraiment, je te remercie, Orjane. Quelque part, me taraude aussi un petit sentiment de pure déconfiture. Je suis tout simplement dépitée qu'Orjane soit allée mourir bêtement comme ça. Nous avions tout planifié pour notre avenir proche comme pour le lointain. Vacances en canoë-kayak dans le Varlam et chacun sa confortable retraite complémentaire. Orjane aussi devait être épitée. Tout ce tai chi, ses pommes de terre bio et ses acides gras polysaturés, qu'est-ce que ça lui a apporté en fin de compte ? Se demande l'humoriste de bas étage en montrant ses incisives jaunes. Parfois, je me mets carrément en rogne à sa place. Ce n'est pas juste, Orjane. Toi qui voulais tant de bien, toi qui étais si compétent. Je ressens aussi parfois un léger frémissement impatient entre les jambes après 5 mois de célibat. Ça me donne l'impression d'être nécrophile. À côté de la pierre tombale d'Orjane, il y a une stèle funéraire monstrueuse. Oui, carrément vulgaire. Marbre blanc avec calligraphie dorée, oh, des angelots, des roses, des oiseaux, des guirlandes de devises et même une petite tête de mort vivifiante et une faux. La tombe elle-même est couverte de plantes. On dirait une pépinière. Il y a un nom masculin et un nom féminin, avec des dates de naissance similaires. À coup sûr, c'est un enfant qui honore ses parents de cette façon chargée. Il y a quelques semaines, j'ai vu pour la première fois la personne en deuil devant la stèle tape à l'œil. C'est un homme de mon âge, avec un blouson voyant et une casquette doublée avec cache-oreille. La calotte est à l'américaine, plus haute devant, avec l'inscription « Les forestiers ». Il était très occupé à biner et à nettoyer la plate-bande. Presque rien ne pousse autour de la pierre d'Orjane. Il aurait probablement trouvé un petit rosier totalement déplacé. L'espèce n'a pas sa place dans le biotope des cimetières. Et le fleuriste devant l'entrée du cimetière ne vend pas d'achillée ni de reine des prés. Le forestier vient régulièrement à quelques jours d'intervalle, vers midi, toujours en trimballant de nouvelles plantes et des engrais. Il dégage cette fierté propre au cultivateur du dimanche, comme si la tombe était son jardin ouvrier. La dernière fois, il s'est assis à côté de moi sur le banc et il m'a observé du coin de l'œil, mais sans rien dire. Il avait une drôle d'odeur et seulement 3 doigts à la main gauche.
Je ne peux pas la blairer. Je ne peux vraiment pas la blairer. Pourquoi elle est tout le temps assise là ? J'avais l'habitude de me poser un moment sur le banc après l'entretien de la tombe pour reprendre le fil de mes pensées. J'essayais de trouver un petit bout de ficelle auquel m'accrocher et qui me permettrait d'avancer encore un jour ou deux. À la ferme, quand je cavale entre tout ce qu'il y a à faire, je n'arrive pas à penser. Si je ne me concentre pas sur ce que j'ai en main, inévitablement arrive une mini-catastrophe qui me donne un jour de travail supplémentaire. Je plante le tracteur sur un rocher et l'essieu arrière pète. Une vache s'abîme un treillon parce que j'ai oublié d'attacher son protège-pie. Me rendre sur la tombe est mon seul bol d'air. Mais même là, j'ai du mal à me dire que j'ai le droit de faire une pause et de simplement penser. Il me faut d'abord biner et planter et m'activer avant de m'autoriser à m'asseoir. Et alors, je la trouve assise là. Décolorée comme une vieille photo couleur qui a trôné dans une vitrine pendant des années. Des cheveux blonds fanés, le teint pâle, des cils et sourcils blancs, des vêtements ternes et délavés, toujours un truc bleu ciel ou sable. Une femme beige. Toute sa personne est une insulte. Un peu de maquillage ou un joli bijou aurait indiqué à l'entourage qu'elle prête attention à son image et à l'opinion des autres. Sa pâleur, en revanche, ne dit que « Je m'en fous de ce que vous pensez. Je vous vois même pas. » J'aime les femmes dont l'apparence clame « Regardez-moi. Voyez ce que j'ai à offrir. » Je me sens presque flatté. Elles doivent avoir du rouge à lèvres brillant et de petites chaussures pointues avec de fines lanières et remonter de préférence leur sein sous votre nez. Rien à foutre si le rouge à lèvres s'étale, si la robe est trop serrée sur les bourrelets, si de fausses perles géantes se bousculent autour du cou. Tout le monde ne peut pas avoir bon goût. C'est l'effort qui compte. Je tombe toujours un peu amoureux quand je vois une femme plus toute jeune qui a consacré une demi-journée à se pomponner pour qu'on la remarque, surtout si elle a des faux ongles, des cheveux cramés par les permanentes et des talons aiguilles casse-gueule. Ça me donne envie de la prendre dans mes bras, de la consoler et de lui faire des compliments. Je ne le fais pas, évidemment. Je les vois à la poste ou à la banque, jamais de plus près. Et les seules femmes qui passent à la ferme sont l'inséminatrice ou la véto. Munies de leur long tablier bleu en caoutchouc, de grosses bottes, un foulard sur les cheveux, elles brandissent des tubes avec du sperme de taureau à tout bout de champ. Elles sont toujours trop pressées pour rester boire un café, même si j'avais eu le temps d'entrer en préparer. Maman n'arrêtait pas de me tarabuster les dernières années pour que je sorte, me trouver une fille. Comme si elles étaient là, dehors, quelque part, un troupeau de filles dociles, et qu'on avait que l'embarras du choix. On prend bien le fusil pendant la saison de chasse pour sortir se tirer un lièvre, alors... Elle savait, bien avant moi, que le cancer la rongeait lentement de l'intérieur et que j'allais me retrouver seul avec tout le travail de la ferme, mais aussi avec tout ce qu'elle avait assumé au fil des ans. Une maison chaude, des draps propres, une salopette de travail lavée tous les 2 jours, de bons petits plats, toujours du café au chaud et des gâteaux qui sortaient du four. Il y avait un boulot énorme derrière tout ça, dont je n'avais pas eu à me soucier. Le bois à fendre, le chauffage, les baies à cueillir, la lessive, les tâches que je n'ai jamais le temps d'accomplir maintenant. La salopette tient debout toute seule, imbibée de merde et de lait caillé. Les draps sont grisâtres, la maison glacée quand on entre, et le café se résume à une tasse d'eau chaude du robinet avec du Ness. Et jour après jour, cette putain de saucisse de chez Scan, les produits des éleveurs suédois, qui éclate invariablement dans le micro-ondes. Elle avait pris l'habitude de poser la deuxième partie du pays ouverte aux petites annonces de rencontres à côté de ma tasse. Parfois, elle avait entouré une annonce, mais elle ne disait jamais rien directement. Ce que ma mère ne savait pas, c'est qu'il n'y a plus de jeunes filles qui attendent au quai de collecte du lait, prêtes à devenir la maîtresse de maison d'un célibataire séduisant avec propriété à la campagne. Elles sont toutes parties en ville, et aujourd'hui, elles sont devenues institutrices et infirmières. Elles ont épousé des mécaniciens ou des commerciaux, et elles tirent des plans sur la comète pour devenir propriétaires d'un pavillon. Des fois, elles reviennent ici en été avec leur mec et une tête blonde dans un porte-bébé, et elles se la coulent douce sur une chaise longue dans la cour de la vieille ferme des parents. Karina, qui me poursuivait tout le temps au collège et qui était partante si on la baratinait un peu, me tend des guet-apens à l'épicerie parfois. L'épicerie ouvre pendant les mois d'été, pour quelques années encore, avec un peu de chance. Elle me saute dessus tout à coup, en faisant comme si c'était un pur hasard qu'on se croise. Puis elle commence l'interrogatoire. Si je suis marié, si j'ai des enfants. Elle habite en ville maintenant avec Stéphane, qui est un magasinier aux galeries Domus, dit-elle d'un air triomphant, s'attendant à me voir verser des larmes sur ce que j'ai loupé. Tu peux toujours courir. La bonne femme toute pâle, elle a peut-être aussi de vieux parents chez qui elle laisse la couler douce en été. J'apprécierais d'être débarrassé d'elle pendant quelques semaines. Quoique, en été, je n'ai même pas le temps de venir ici. Sauf s'il pleut des cordes. Mais ça, c'est pas terrible pour la récolte d'automne. Et cette pierre tombale qu'elle ne quitte pas des yeux, c'est quoi cette pierre? On dirait un truc que le géomètre a balancé là pour marquer la limite du terrain. C'est maman qui a choisi la stèle de papa. Je vois bien que c'est une stèle pompeuse, mais je vois aussi tout l'amour qu'elle a mis dans son choix. Elle y a passé des semaines, elle a commandé plein de catalogues. Tous les jours, elle avait une nouvelle idée de décoration, et pour finir, elle a tout pris. Or Jean, c'est un père, un frère, ou c'était son homme? Et du moment qu'elle se donne la peine de venir, jour après jour, et de rester là les yeux rivés sur la pierre, elle pourrait au moins se donner la peine de planter quelque chose sur la tombe.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow.
Apprend ensuite un peu plus sur la vie et sur le passé des personnages. Puis c'est le récit de l'événement qui déclenche un intérêt réciproque et le début des difficultés. On découvre que les deux personnages sont peu sûrs d'eux et s'en tirent en faisant dans l'autodérision, et ça donne un ton très plaisant à l'écriture. On nous présente les amis de nos personnages qui contribuent à situer l'un et l'autre socialement. Et là encore, les différences sont flagrantes.
Le labour d'automne est fini, et j'ai décidé de ne pas trop travailler dans la forêt cet hiver. Juste un peu d'élagage. C'est maintenant que je devrais me mettre à l'entretien du matériel. Je devrais aussi couler une nouvelle dalle à fumier et repeindre le hangar à machine. Je n'en fais rien. Les jours passent, Il m'arrive de rentrer de l'étable, de m'allonger sur la banquette de la cuisine et de rester là, les yeux rivés au plafond. Si je regarde par la fenêtre, je vois tout ce que j'ai laissé en plan. Parfois je lis le pays, les deux parties. J'épluche méticuleusement toutes les petites annonces dans la partie loisirs et tous les faire-part de décès dans les pages locales. Pas la peine de démarrer quoi que ce soit, ça va bientôt être l'heure de retourner traire les vaches. Il y a 5 ans, nous étions encore 2 agriculteurs dans le village. Ben Goran avait aussi repris après son père. Et des fois, on se retrouvait le soir pour boire une bière. On parlait de la possibilité de mettre nos vaches sur les mêmes pâturages et de construire une salle de traite indépendante. Mais le beau-frère de Ben Goran, qui s'occupe des finances de la commune, a calculé que ce serait un investissement en pure perte. Ensuite, Ben Goran a rencontré Violette, une fille habituée aux voyages charter. Il était obsédé par des visions de Violette sur la plage, se faisant draguer par des types bronzés, tapis de poils noirs sur la poitrine et croix en or autour du cou. Et avant qu'on ait eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, Ben Goran avait vendu ses vaches et commencé à suivre Violette au soleil. Il s'est reconverti en vache à viande, qu'un écolo de la ville se charge de soigner quand il s'absente, et en hiver, il se fait des thunes au déblayage de la neige. Je le vois rarement maintenant. L'automne dernier, avant de savoir que maman était malade, je prenais la voiture tous les soirs pour aller voir du monde. Ceux qui étaient restés au village, je veux dire. Les anciens m'offraient un café et parlaient de leur maladie. Les plus jeunes prétextaient toujours des mômes à coucher ou des placards à repeindre. Mais chaque fois qu'ils avaient une cousine ou une copine de madame en visite, ils m'invitaient à dîner le vendredi soir pour faire le 4e. On mangeait du rôti d'élan avec quelques verres d'aquavit et parfois on dansait aussi. Tôt ou tard, je me retrouvais seul avec la nana et si j'étais un peu pété, juste qu'il faut, on allait batifoler quelque part et il n'y avait jamais de suite. Cet automne, je n'ai pas sorti la voiture une seule fois pour aller voir quelqu'un. Mais il arrive que les gens viennent ici. Je suis un bon voisin. C'est marqué en fluo sur leur front. Je me fais peut-être des idées. L'autre jour, je suis allé à la banque en ville et j'ai vu la beige. Elle entrait à la bibliothèque et elle ne portait pas de livre, pour autant que j'ai pu voir. Je me suis dit qu'elle y travaille, peut-être. Et puis, une fois dans la rue, après avoir réglé mes affaires à la banque, mes bottes m'ont conduit droit sur les portes vitrées de la bibliothèque. Oui, mes bottes toutes seules. Et je suis entré. C'était un drôle de truc. Sous les lumières du comptoir, je me suis un peu dégonflé et j'ai tourné la tête pour renifler le col de mon blouson, histoire de vérifier si je sentais l'étable. Puis je l'ai vue. Elle discutait avec un môme, penché en avant. Elle montrait quelque chose dans un livre. Tous les deux riaient. Je me suis approché et j'ai tapoté son épaule. Elle s'est redressée avec une ride d'irritation au front. Quand elle m'a aperçu, elle s'est troublée, comme si elle avait eu peur. Et moi, je n'étais pas moins troublé. Eh bien, oui, bonjour. Est-ce que vous avez des livres sur l'apiculture ? Ai-je balbutié en essayant de ne pas exhiber mon sourire assassin. J'imagine que oui, et tiens, bonjour, a-t-elle dit brièvement. Vous n'avez qu'à demander à l'accueil, c'est ma pause de midi maintenant. Le blaireau national a canalisé toute son énergie en un bond déterminant. Ça vous dirait de venir faire un tour au cimetière ? Elle m'a longtemps regardé. Alors là, je suis sûr que vous dites ça à toutes les filles, a-t-elle dit. Et ensuite elle a souri comme une gamine en vacances. À partir de cet instant, j'ai des trous de mémoire. Mais je sais que plus rien n'était difficile à gérer, ni inquiétant. Elle a pris son manteau et on est parti. J'ai même trouvé son bonnet en feutre joli, avec les champignons et tout. On est allé dans un restaurant et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on a mangé ou dit. Si, une chose. Quand j'ai voulu payer pour nous deux, elle a dit « Oui, merci, je veux bien. » C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 35 ans, ça me fera un cadeau. Pour le coup, j'ai compris deux choses. Elle ne comptait pas avoir d'autres cadeaux. Et j'étais tombé amoureux d'elle. Ce n'était pas exactement un déclic, plutôt comme quand je touche la clôture électrique sans faire gaffe. Chiquitita, you and I know.
J'étais en train de parler avec une petite fille outrée qui trouvait Blanche-Neige complètement idiote. Elle n'a même pas reconnu sa marâtre avec la pomme. Mais c'est vraiment nul, a-t-elle dit. Ça nous a fait rire. Quelqu'un m'a tapoté l'épaule. J'aurais presque dit le bras de la justice, mais c'était le forestier. Il portait son habituel blouson criard, mais il avait enlevé la casquette et des mèches d'une couleur poussiéreuse tombaient sur son front. Il avait l'air en colère. Et il s'est lancé dans une diatribe incompréhensible sur un ton autoritaire. Je me suis dit qu'il devait désapprouver ma façon de soigner la tombe, et il m'a fallu un moment pour comprendre qu'en fait, il cherchait un livre. « Demandez à l'accueil, c'est ma pause de midi, l'ai-je rembarré ?» Il n'arrivait pas à contrôler son visage. Il était plein de tiraillements. Puis, il a demandé si ça me disait de faire un tour au cimetière. L'enfant l'a regardé avec beaucoup d'intérêt. Et soudain, j'ai compris que je m'étais trompée quelque part et qu'il y avait un tas de choses que j'ignorais totalement. Nous sommes allés déjeuner ensemble. Il a englouti de quantités faramineuses de daubes avec des betteraves rouges et du pain, et il a bu du lait. Il le sirotait assez bruyamment, alors que moi, je n'ai fait que profiter des rayons de son sourire. Sans la casquette et avec le visage animé par l'attention, il n'avait l'air ni triste, ni vieux, seulement très réel. Et ses cheveux en bataille, eh bien, ils étaient tout simplement désarmants. Nous avons parlé. C'était gai et cafouilleux. Nous n'avons pas dit un mot sur Kristeva ou Lacan. Pour autant que je m'en souvienne, ça tournait autour de lutins, de différentes étapes quand on coule du béton, de bruant jaune, de la basilique Saint-Pierre de Rome et d'ongles du gros orteil. Il saisissait tellement vite que j'ai presque cru à la transmission de pensée. J'ai raconté que c'était mon anniversaire et, d'une façon ou d'une autre, il a compris que je n'avais pas eu de cadeau. « Maintenant, tu viens avec moi », a-t-il dit. Il a mis sa casquette et m'a fait enfiler mon manteau d'une main ferme. Puis, en courant presque, il m'a entraîné aux galeries Domus et s'est mis à acheter des cadeaux. Il n'a pas demandé ce qui me ferait plaisir. M'a seulement dit de fermer les yeux quand il s'était décidé pour quelque chose. Nous avons fait les trois étages. Et ensuite, nous nous sommes installés à la cafétéria pour manger des petits gâteaux à la crème. Il a étalé sur la table tous les paquets dans leur joli papier cadeau. Puis il m'a regardé avec impatience. Je me suis jetée dessus avec une hâte qui n'était toute sauf feinte. Et j'ai arraché le papier de tous les paquets avec des « Oh !» de plaisir. Des « Oh non, mais !»« Oh, c'est trop !» Au rez-de-chaussée, il avait acheté des boucles d'oreilles Mickey, un savon en forme de papillon et un collant turquoise. Au premier, un ballon rouge et brillant, une affiche avec les silhouettes noires d'un couple d'amoureux, main dans la main, dans un coquillage géant en route au-dessus de la mer vers le lever du soleil. Et une casquette aussi épouvantable que la sienne, mais sans les forestiers écrits dessus. Dans le dernier paquet, il y avait un harmonica. « Tu sais jouer de l'harmonica ? » demanda-t-il. Je secouais la tête. « Tant mieux, moi non plus. Je savais bien qu'on avait quelque chose en commun, » sourit-il. Il était sur le point de planter la fourchette dans son troisième petit gâteau à la crème quand tout son corps se figea. Il venait de jeter un coup d'œil à sa montre. « Oh, il faut que j'y aille !» s'écria-t-il. « J'aurais dû être de retour à la ferme depuis des heures !» Il se leva, en envoyant valser le papier et les cadeaux, et se précipita vers l'escalator. Juste au moment d'y poser un pied, il se retourna. « Tu t'appelles comment ? » beugla-t-il. Je me sentis assez stupide en criant « Désiré !» En retour, les clients autour de moi ont dû me prendre pour une extraterrestre. « Quoi ?» entendis-je dans l'escalateur, puis il avait disparu. « Et toi, je suppose que tu t'appelles Cendrillon, marmonnai-je seul avec mon gâteau. Fais attention de ne pas perdre tes bottes. » L'ambiance dans la salle du personnel à la bibliothèque était indéfinissable quand je suis revenue, avec 3 heures de retard et 100 gâteaux princesse.
If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around for a while. If you got
Il travaille mal. Il a perdu toute la traite de la journée en faisant une fausse manœuvre. La maison est froide et il n'a pas le temps de faire des courses. Obsédé, il cherche à retrouver qui elle est dans la demeure. Elle travaille mal. Elle fait tomber les boîtes de fiches, efface des fichiers d'ordinateur par inadvertance, jusqu'à ce qu'arrive le coup de téléphone qui va aboutir à un rendez-vous.
Je n'ai pas trouvé de chaussettes propres. Et la pompe n'a pas voulu fonctionner si bien qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Et quand je suis arrivé en courant devant les grilles du cimetière, je savais que je sentais les tables. Parfois, quand je vais à l'épicerie du village, j'oublie que je suis en bleu de travail jusqu'à ce que je vois les gens s'écarter de moi. Ils imaginent peut-être que j'ai des problèmes de flatulence. De nos jours, peu de gens savent reconnaître une bonne vieille odeur de bouse. Elle avait mis le collant turquoise. La couleur jurait terriblement avec son manteau. Je dois sentir les tables, je suis agriculteur, ai-je annoncé avant même de l'avoir salué. 24 vaches laitières, plus le recrutement. Je n'avais pas eu le temps de lui raconter tout ça la dernière fois. Et quelques moutons, ai-je ajouté, bêtement. Et je l'ai regardé en douce tout en essayant de me placer dans le bon sens du vent. Elle m'a fixé, puis le sourire de vacances d'été s'est lentement répandu sur son visage. « Ça veut dire quoi, recrutement ? » a-t-elle demandé. On a réglé le problème d'odeur en allant à la piscine, et sur le chemin, j'ai expliqué que le recrutement était les veaux qu'on garde pour renouveler le troupeau. J'ai loué un slip de bain bleu marine, ignoble. J'ai acheté un petit flacon de gel douche et je me suis minutieusement savonné avant de la retrouver au bord du bassin. Elle avait attaché ses cheveux blonds et raides en un petit chignon mouillé et boudiné. C'est à peine si je l'ai reconnu. Son maillot de bain était beige, évidemment, et elle était maigre, presque anguleuse. Sans ses petits seins, pas plus gros que des prunes, elle serait passée inaperçue dans la catégorie messieurs 14 à 16 ans. Pourtant, sa maigreur tenait plus du lévrier afghan que de la disette. Ses mouvements étaient en quelque sorte efficaces et économes en énergie. Je suivais d'un regard ensorcelé sa main pâle quand elle peignait des images dans l'air pour illustrer ses propos. Je pensais au fait que j'ai toujours bien aimé les couleurs. Et la chair et les bourrelets aussi, soyons clairs, ça me donne des bonnes prises. Alors qu'avec elle, je pourrais juste utiliser le bout de l'index si je devais un jour me trouver à proximité de ses prunes. À une époque, j'avais un collet. Une femelle que j'essayais d'accoupler avec un mâle de la même race, qui avait un bon pédigré. Ma chienne rasait les murs et cherchait à se sauver. Elle refusait tout rapport avec ce mâle-là. Quelques mois plus tard, elle n'a pas bougé d'un poil et s'est laissée saillir sans mouveter par un croisement de chien-loup et de labrador. Des choses comme ça, il vaut mieux ne même pas commencer à y réfléchir. 2-3 longueurs et fait la course sur des vélos d'entraînement et ensuite on est allé à la cafétéria choisir parmi les gâteaux et touffes chrétiens. Tout le temps on a parlé, elle surtout c'est vrai. Au milieu d'une phrase, j'ai senti son pied frotter mon mollet. Et alors, j'ai totalement perdu le fil. Les cris d'enfants qui résonnaient depuis le bassin se sont ajoutés au martèlement dans mes oreilles et j'ai été obligé de poser la serviette de bain sur mes genoux. On a joué un moment avec nos orteils et j'ai lutté pour maintenir le regard sur son visage. Tout ce que je voyais, c'était ses lèvres qui bougeaient, mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle disait. Soudain, elle a pris ma main mutilée et s'est mise à mordiller les articulations sans doigts. Je suis resté comme pétrifié. « On va chez moi maintenant », a-t-elle dit. Et c'est ce qu'on a fait. On y est allé. À son appartement, blanc et beige. Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Elle a déverrouillé la porte, lancé le sac de piscine dans un coin et le manteau dans un autre. Puis, elle s'est retournée, s'est débarrassée de son t-shirt bleu pâle et a incliné la tête. J'ai regardé autour de moi, puis j'ai commencé à enlever mon jean. Et alors, j'ai débandé complètement. J'avais l'impression qu'on se mettait à poil dans la bibliothèque municipale. C'est tous ces foutus livres sur les étagères qui me rendent nerveux, ai-je bredouillé. On ne l'avait jamais faite, celle-là, a-t-elle rigolé. Elle a pris ma main et a porté les jointures dépourvues de doigts à ses lèvres, encore une fois. Ensuite, on a fait l'amour, deux fois, directement, sans la moindre finesse. Mais il aurait été aussi difficile de nous arrêter que d'arrêter un train express sur sa lancée dans une ligne droite. La troisième fois, j'ai murmuré dans son oreille. Maintenant, on est comme deux chiens coincés l'un dans l'autre. Il faut que quelqu'un nous jette un seau d'eau. Et on a commencé à se déplacer dans l'appartement, toujours attachés l'un à l'autre. Elle a fait cuire des saucisses avec des œufs sur le plat, moi en elle, par derrière. Elle a mis un tablier sur son ventre qu'elle a noué dans mon dos. On est allé prendre une douche comme une bête préhistorique à huit pattes. On s'est entraîné à marcher l'amble et on a imaginé la frousse qu'auraient les gens au kiosque si on descendait comme ça acheter le journal, juste entouré d'un drap. Mais, avant qu'on ait réussi à arranger joliment le drap, elle a tourné de l'œil et s'est effondrée en un joli petit tas sur le tapis de l'entrée. Elle grommelait un truc à propos de marbrure sur la poitrine. Je n'ai rien compris. Pour une fois, je n'avais pas à me soucier de l'heure. J'avais réussi à convaincre Ben Goran de faire la traite du soir. Mais il fallait penser à demain. Je n'ai pas pu envisager de me séparer d'elle, ne serait-ce qu'une minute, et je lui ai demandé de venir avec moi. La quatrième fois que je me suis glissé en elle, je l'ai senti se contracter autour de moi. Et il y avait autant de muscles qu'une vieille bergère en a dans les mains. Je lui ai dit. Elle a frotté son nez contre le mien. « Tu crois que moi aussi je pourrais apprendre à traire à la main ?» a-t-elle marmonné.
Orjane et moi lisions les plaisirs de l'amour ensemble. Nous nous faisions des massages avec de l'huile et ensuite nous testions toutes les positions, même une étrange variante de bretzel. J'ai feint l'orgasme plus d'une fois. Pas pour rendre Orjane heureux, je l'avoue, non. Des fois, je n'avais simplement plus la force de continuer. Lui ne voulait jamais abandonner avant d'être parvenu au résultat qu'il s'était fixé. D'ailleurs, il était pareil en tant que scientifique. Il se formulait une hypothèse et ne baissait pas les bras avant de l'avoir démontré. Il avait lu que les femmes avaient des marbrures rouges sur la poitrine après l'orgasme, et quand il me voyait aussi blanche que d'habitude, un pli d'agacement se creusait sur son front et il avait l'air de vouloir remettre ça. Je tentais un stratagème style manque de pigmentation, et il se lançait dans une explication de la différence entre pigmentation et excitation nerveuse jusqu'à ce que je m'endorme d'épuisement. Je me disais que je n'avais pas de penchant pour l'érotisme. Je me trompais. Quand je suis sortie des vestiaires d'âme à la piscine, j'ai guetté mon forestier parmi les baigneurs et je ne l'ai pas vu tout d'abord. Je cherchais une démarche d'ours et l'éternelle casquette avec des caches-oreilles. Puis, tout à coup, il s'est matérialisé devant moi en slip de bain de location, hanches étroites, épaules larges et musclées, où les veines serpentaient comme des cordelettes. Le visage et les avant-bras étaient bronzés, le reste du corps blanc comme la craie. Les cheveux poussiéreux et jaunes tombaient en boucles dorées et mouillées. À la cafétéria, quand j'ai caressé son mollet avec mon gros orteil, il a posé son drap de bain sur les genoux avec une grimace gênée. Ça ne m'a pas échappé. Mes ovaires faisaient des sauts périlleux et j'étais pressée de l'emmener chez moi. Le plus tôt serait le mieux. Il s'agissait bel et bien de Désirée Valin, la femme qui était dans son appartement cet après-midi-là, en compagnie d'une personne de sexe mâle. Je veux dire, j'avais le même numéro de sécurité.